Parce que vous en revenez, monsieur. Je me tourne vers Jean Lescuyer. Vous revenez de Moscou. Vous étiez à Moscou il y a combien de temps?
Oui, non, j'étais à Moscou le 8 juillet.
8 juillet. Donc on peut dire il y a un mois, vous étiez à Moscou.
8 au 17 juillet, le soir. Et après 7000 kilomètres entre Fatima et Moscou, 7000 kilomètres en s'abandonnant, en priant le bon Dieu, dépourvu de tout, n'est-ce pas, sauf de mon ange gardien, et qui fut extrêmement secourable.
Donc vous n'aviez pas de carte bleue, mais vous aviez un ange gardien.
Oui, c'est ça.
C'est quand même plus intéressant.
Ça ne ruine pas les banquiers. C'est extrêmement secourable.
Et alors, je vais vous poser une question très, très concrète, très pratique. Vous avez quel âge et dans quelle forme êtes-vous actuellement après un tel périple? Dites-nous très simplement. Nous sommes en famille.
Je vais vous répondre volontiers. Je n'ai jamais été aussi vieux qu'aujourd'hui. J'ai donc 79 ans depuis le 3 mai. Voilà, je suis en bon état, bien que de quelques désastres sont arrivés dans ma vie, soit un crash avec un avion de guerre.
Vous étiez pilote de l'armée française,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, oui. Et puis des diverses affaires pathologiques qui, redoutables et qui m'ont conduit à fabriquer le pèlerinage des cancéreux près de Notre-Dame de Lourdes qui s'appelle Lourdes Cancer Espérance. Voilà. Et donc, je suis en bonne forme.
C'est un périple qui a duré combien de mois en tout? Je sais qu'il y a eu une pause en hiver. Winfried Wirbeling, qui vous accompagne, vous a dit il faut peut-être prendre ses quartiers d'hiver en France.
Oui.
Mais après, vous êtes reparti. Mais en tout, si on oublie la pause au milieu, en tout, ça a fait combien de mois? Pour combien de kilomètres?
Oui, ça fait environ 7 mois pour 7000 kilomètres.
Ah oui, 1000 kilomètres par mois.
C'est ça. Je fais une bonne moyenne.
Oui.
Hein? Voilà, donc mon plus petit jour fut 0 kilomètre. Mon plus grand jour fut 52 kilomètres. C'était plus qu'un jour.
Ah oui.
Oui, la distance entre une étape et une autre est conditionnée par la forme physique, par ce qui est logique d'investir de la santé et de sa forme, mais aussi par la sécurité, de la halte, et sécurité de la marche. Quand les conditions de sécurité ne sont pas optimales, ne sont pas bonnes, eh bien, il faut rester marchant, il faut avancer et affronter les risques de chaque moment. Voilà.
Alors j'ai une question d'un auditeur qui doit être un de vos amis. Je vous donnerai son nom après. Donc il vous transmet toute son admiration pour l'audace, le courage. Il vous a soutenu de ses prières, mais il vous pose une question. Est-ce que vous n'avez pas allongé votre parcours en montant jusqu'à Saint-Pétersbourg?
Si, absolument. Mais c'était conventionnel. Nous avions réfléchi à cette question. Évidemment, j'aurais pu économiser des kilomètres. il était important d'atterrir à Saint-Pétersbourg et de Saint-Pétersbourg de se diriger vers Moscou. Donc, je le fais volontiers.
Oui, d'accord.
Oui.
Donc, c'était voulu et c'est assumé.
Oui, oui, oui. Alors, nous avions à Saint-Pétersbourg la perspective de rencontrer l'éminence grise du patriarche Cyril, qui est constitué par son frère de sang, n'est-ce pas? Mais lorsque nous étions, nous sommes allés jusqu'à sa demeure, mais il était hospitalisé en mauvais état. Et nous comptions sur lui pour arranger notre rencontre avec ce patriarche. Et évidemment, par ailleurs, il était hospitalisé au Pava. Peut-être, n'est-ce pas, qui fut la première étape au sud de Saint-Pétersbourg. J'avais admis qu'il était hospitalisé à 200 kilomètres. J'avais retenu 200 kilomètres et pas au Pava. Nous avons traversé avec l'abbé Devilliers, n'est-ce pas, qui était mon compagnon
qui a fait une semaine de marche avec vous. Avant d'arriver à l'abbé Devilliers, je vais me tourner une petite seconde vers Winfried Birmenig, qui lui aussi vous a accompagné, vous a retrouvé à certaines étapes. Winfried Birmenig, on vous connaît, c'est l'UNEX, c'est le Saint-Suaire, c'est la Sainte Tunique d'Argenteuil. Pourquoi est-ce que vous avez voulu soutenir ce pèlerinage de vos prières, mais aussi personnellement, vous vous êtes rendu? Quelle était votre motivation à vous, avant que je ne voie la motivation de Jean Lescuyer?
Oui, nous, chez l'UNEC, nous faisons des pèlerinages chaque année, internationaux, vraiment chrétiens, avec la messe tous les jours. Mais là, c'est quand même un pèlerinage hors toute dimension, hein, à pied de Fatima. Donc je me suis intéressé à sa motivation et j'ai été convaincu que c'est une chose importante. Et en plus, je pense que ça met un peu les points sur les i concernant beaucoup de choses dans l'Église. C'est presque une radioscopie de la réalité de la chrétienté aujourd'hui en Europe chrétienne. Et on s'aperçoit que le haut ne fonctionne pas aussi bien que le bas. C'est-à-dire que les gens simples en Europe sont encore avec des réactions tout à fait chrétiennes. Et par contre, il a rencontré ou pas pu rencontrer les plus hautes autorités de l'Église des deux côtés, catholiques et orthodoxes, on avait un peu l'impression par des intérêts. Pourtant, c'est la Vierge Marie qui est en cause, qui a demandé quelque chose, et depuis 101 ans maintenant, ça n'a pas été fait sous cette forme-là. Et ça, donc, ça m'a intéressé beaucoup, cette initiative. Il a dit, Winfried, nous, une personne, c'est important dans le royaume de Dieu. Et on peut faire des choses, faisons-les, tout seul. Actuellement dans l'Église, quand il n'y a pas 10 000 personnes, ça ne compte pas. D'ailleurs, la presse catholique en France, personne n'a parlé de ce pèlerinage, à part mission. La petite feuille d'information de la fraternité sur les missions de la fraternité.
On peut dire d'ailleurs un mot de la regrettée Fabienne Dufour-Honclar, mais son mari reprend l'œuvre et mission continue grâce à lui et de façon remarquable.
Oui. Donc c'est pour ça qu'on a un peu appuyé, et chaque fois qu'il y avait un grand point comme Rome, Vienne, Pétersbourg, on a envoyé quelqu'un de chez nous pour encadrer un tout petit peu qu'on pouvait sans marcher. ce magnifique pèlerinage.
Et alors, Jean Lespillier, lorsque vous voyez justement les amis autour de Winfried vous rejoindre à certaines étapes, est-ce que ça a aidé pour le moral sur le...
Évidemment. Oui. Évidemment, chaque convergence est confortante.
Oui.
C'est vrai, mais ça constitue un luxe. Ma détermination, notre détermination, parce que Winfried, non seulement a pris part à ce pèlerinage avec un grand cœur, hein, mais il nous a pas dit qu'il est un co-concepteur de ce pèlerinage. Il fut. Nous avons stabilisé ce pèlerinage, nous l'avons conçu ensemble au même moment. Je lui écrivais il y a 2-3 jours j'avais été les pieds dont il fut la tête.
C'est très très bon.
Voilà. Et alors il est très humble parce que quand il dit tout va bien, il a quand même eu des gros problèmes physiques. Il a été opéré 2 fois au pied pendant ce pèlerinage, mais il n'en dit rien, hein, comme si c'était rien. Mais il faut quand même insister et continuer.
Donc il vous a fait les pieds, mais des pieds qui ont souffert.
Oui, une fois à Perpignan, il s'est absenté une semaine. Il a fait son opération, du pied droit d'ailleurs, hein, c'est ça. Et puis, pendant la grande interruption à Vienne, pendant 3 mois pour l'hiver, il en a profité de nouveau pour une opération du pied. Ça se fait quand même pas comme rien.
Enfin, mais écoutez, ne considérons pas ces choses-là.
Non. D'ailleurs, votre...
Écoutez, j'adhère à une conception qui veut qu'il n'y ait pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Hein? Donc, la maintenance du pied, c'est anecdotique. Bon.
Non, je comprends bien. D'ailleurs, il est évident que votre démarche et même votre marche n'était pas du tout un exploit sportif, ce n'était pas une épreuve physique, c'était essentiellement spirituel, c'est bien cela. C'est ce que nous disait Winfried à l'instant, c'était le message de Fatima, la conversion de la Russie. Et alors, vous avez été aidé, vous le disiez à l'instant, par un de mes confrères que je connais bien, l'abbé Guillaume de Villers, qui est venu et qui a donc fait route avec vous vers la fin, quand là vous êtes en Russie.
Sa première participation, c'était dans le sud de la France, entre Fabrègues et Salon de Provence, approximativement. Et il a été magnifique. Bon, je vous le dis parce qu'il n'est pas là.
Oui.
Qu'il ne nous entend pas.
Mais bien sûr, on ne lui répétera pas, rassurez-vous.
Mais il a été magnifique. Et entre Saint-Pétersbourg et environ 200 kilomètres au sud de Saint-Pétersbourg, il a été de la même espèce, avec un peu plus de métier. Nous avons de très bons souvenirs, un souvenir épatant, c'était le soir de notre deuxième étape au sud de Moscou.
Pétersbourg.
Au sud de Saint-Pétersbourg, oui, bravo. L'abbé de Villers était un peu... il se demandait comment nous allions passer la nuit, hein, et comment, si nous parviendrions à manger quelque chose. Nous avons fait une halte chez la grande église orthodoxe. Ils furent aimables, enfin, un gardien fut très aimable, mais il nous a même offert un café ou une boisson, mais il nous a dit après qu'il n'était pas possible de nous garder. C'est vrai qu'il n'y avait que entre 5 et 10 000 carrés, 10 000 mètres carrés de plancher, n'est-ce pas? C'était difficile de trouver un couloir pour nous héberger. Bon. Et nous quittons ça, n'est-ce pas? Et nous nous dirigeons vers le sud. Et il y a une église et jeunes gens, 35 ans, 40 ans, qui taillaient une haie devant l'église. Bonjour messieurs, savez-vous, nous sommes des pèlerins, savez-vous si nous pouvons dormir quelque part à l'abri et nous nourrir de quelque chose ils ne comprennent pas spontanément.
Parce que vous leur parlez à ce moment-là en russe, en français, en anglais.
Je pense que nous parlions anglais.
Anglais,
oui.
D'accord.
Oui. Et puis je répète, et c'est le mot de pèlerin qui. Hop, leur visage change, ils sortent de leur échafaudage, ils sortent vraiment de leur échafaudage, ils font le tour de la haie. Et ils disent, vous êtes les bienvenus. Hein? Et ils étaient un évangéliste. Hein? Ils nous ont amenés chez eux. Ils nous ont magnifiquement nourris. Ils ont appelé leur pasteur qui est venu nous visiter et de ce groupe de d'évangélistes avaient été des sinistrés de la vie, n'est-ce pas? Ils avaient consommé des stupéfiants, de l'alcool, ils avaient un passé pénal.
Oui.
Mais ils sont sortis de cet abîme, hein, et de cet abîme qui conduit à la mort naturelle ou au suicide, tellement c'est dramatique. Hein, ils sont sortis de là grâce à l'Évangile. Hein, et c'est une situation. Alors, ils ne sont pas encore exactement catholiques, n'est-ce pas? Mais ils ont démontré une foi en Dieu, n'est-ce pas? Et une gratitude magnifique.
Et l'abbé de Villers, qui est un grand, grand dévot marial, grand dévot de la Sainte Vierge, a certainement à ce moment-là dû présenter son petit dépliant. Vous savez qu'il a un dépliant en russe, pour le secret de Fatima.
Tout à fait. Nous allons nous revoir avec ces personnes, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre un contact. Bref, voilà, cette rencontre était une bouée de sauvetage. Hein? Un pèlerin n'a rien, n'est-ce pas? Hein? Il y a des questions de sécurité, des questions donc on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Hein. Il y a des questions Il faut se reposer. Hein. Il faut aussi se nourrir. Et donc, c'est important de pouvoir réaliser cette recharge des batteries.
Bien sûr. Alors, j'ai vu dans le compte-rendu que l'abbé de Villers a écrit,
oui.
À un moment, on vous conseille de suivre la voie ferrée, en vous disant c'est très sûr,
oui.
Et puis vous vous faites arrêter par des policiers qui vous disent c'est pas du tout permis,
oui,
il faut que vous preniez la route.
C'est ça.
Vous avez ça, et l'abbé de Villers, comme vous, est très frappé, c'est ce que disait Winfried Wirbeling, par une forme de christianisme au niveau des gens simples, et aussi une grande dévotion à la Sainte Vierge, parce qu'ils sont orthodoxes. Ils ont la dévotion à la Sainte Vierge.
Oui.
On sent que c'est elle qui fera le travail, si j'ose dire,
c'est ça.
De conversion. C'est bien ça.
C'est ça. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Et donc, ces policiers. Alors, c'était le consul général de France de Saint-Pétersbourg qui nous avait dit que la sécurité était mal assurée. Entre les zones pastorales et les zones urbaines, hein, et que il se promenait lui-même et il accomplissait ses promenades sur la voie ferrée, car aux abords de la voie ferrée, il y a des humains qui vivent, n'est-ce pas, et qui prospèrent, et qui connaissent quelque peu la civilisation. Hein. Et donc, il nous avait recommandé ce chemin, ce chemin de fer.
Winfried Wirbeling, vous vouliez poser une question.
Si je me souviens bien, dans les pays baltiques, il t'avait pratiquement, il voulait pas que tu continues le chemin vers la Russie.
Tout à fait.
C'était des jugements très sévères, hein,
tout à fait, contre... tout à fait, oui. Oui, bon, mais, écoutez, je suis revenu sur cela. Il était banal d'entendre que dans ces zones qui sont moins civilisés que les zones urbaines, on m'a dit diverses fois qu'il était banal de tuer un étranger que personne ne connaît pour lui prendre ses chaussures, n'est-ce pas? mais je crois que c'est une fable. Hein. J'avais sur ma poitrine et derrière mon sac,
oui.
Cette petite icône ce texte.
Alors, c'est en écriture cyrillique, moi je ne lis pas le russe, mais ça disait qui vous étiez, c'est
voilà,
ça avec un numéro de téléphone.
Avec un numéro de passeport.
Ah, voilà.
Un numéro de passeport, et ça indique que j'étais un pèlerin, que je me rendais de Fatima à Moscou, et que éventuellement j'acceptais quelque nourriture, mais que je ne voulais pas d'argent. Et il y avait cette icône,
et oui,
et c'est l'abbé Keller, peut-être,
oui,
qui est le doyen de Riga, hein, au centre des Pays-Baltes, et qui m'a convaincu de cela,
oui.
Et qui m'a dit, il faut que vous ayez, c'est lui qui m'a donné cette petite icône,
oui.
Et il m'a dit, il faut que vous colliez ça sur votre sac, hein, ça écartera les mauvaises personnes.
Et de fait, sur c'est 7 mois, c'est 7000 kilomètres. Vous n'avez, à part les épreuves de santé qu'évoquez et qui sont naturelles, vous n'avez pas eu des... Vous n'avez pas été agressé
Si, je l'étais, mais c'est sans tellement d'importance. Écoutez, au cours des mêmes 7 mois, chacun de nous, ici, n'est-ce pas, nous avons eu des affaires, des circonstances... qui ont été désagréables, mais nous avons survécu. Mais je vous dirais par exemple que dans ma traversée de la Tchéquie, dans une ville qui est une grande ville qui s'appelle Opava, je crois, Alors, il y a une cathédrale, mais une cathédrale dans laquelle il n'y a pas, on ne célèbre aucun culte.
C'est très déchristianisé. La Tchéquie était le pays d'Europe le plus déchristianisé. Voilà.
Pas le plus. Non. Je crois que la Biélorussie est encore plus déchristianisée.
Ce qui fait que les églises sont des monuments historiques, mais il n'y a plus de culte, voilà. Il n'y a plus de présence réelle, il n'y a plus rien.
Ouais. Voilà. Et donc, là, je demande l'hospitalité et quelqu'un qui est un appariteur, un gestionnaire de lieux publics, me dit non, ici ce n'est pas possible, il me donne une adresse et c'était un chantier. Je sens tellement d'importance, c'est assez banal.
Oui.
Et donc je reviens en ville et je vais dans le centre de la ville, je cherche le commissariat principal de police et on m'a écouté, mais on m'a dit de partir. Et de grande avenue, et de l'autre côté de l'avenue, l'université. Et un tympan perché sur des piliers. Pas de passage, pas de personne qui passe par là. Et je m'y suis établi et à 22h30, je dormais. Et c'est à 2h du matin, je suis ébloui par des phares très puissants, pas des phares de vélo Solex ou d'automobile, mais des phares extrêmement puissants et des gens, deux personnes a priori, mais que je ne voyais pas, qui me donnent des coups de pied, des coups de poing et qui me chassent. Je souffre encore d'un genou derrière la rotule. J'ai un kyste dont je ne sais pas vous dire le nom, mais qui va guérir de ces jours, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une condamnation de mon genou.
Votre ange gardien est aussi infirmier, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr.
Il fait les deux. Et quel est votre plus beau souvenir, si je peux dire. Peut-être y en a-t-il plusieurs, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de sept mois de pérégrination?
C'est mon atterrissage à Moscou. J'avais une adresse de la chapelle de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis. Mais cette adresse, je m'y rendais, mais j'avais commis une erreur et il y avait deux i dans l'adresse et je n'avais écrit qu'un i. Hein, et euh, c'est un mot compliqué et long. Hein. Je me suis rendu à la fausse adresse. Hein, et là où je comptais trouver une église, il y avait un carrefour. Ben, un grand carrefour, n'est-ce pas? Je réfléchis là, j'ai posé mon sac, j'ai récité Vêpres. Il y a un homme, 60, 65 ans, jovial, bien russe, singulier, il avait des bonbons dans toutes les poches. Et il m'aborde en sortant un bonbon et il me le tend. Et il ne parlait que le russe, mais cependant, il a compris, je lui ai montré l'adresse où je voulais me rendre. Il a compris que j'avais fait fausse route. Il interpellait les gens qui passaient, et notamment deux jeunes gens qui disposaient d'un système informatique. Tout le monde a travaillé sur ces adresses et un a dit, ça y est, je vois, c'est l'affaire des I, il faut un I ou deux I, mais entre les deux rues, n'est-ce pas, et il y a 19 kilomètres. Bon. Et donc j'étais allé 19 kilomètres trop au sud, j'aurais fait une affaire de bien identifier la bonne adresse. Mais cet homme au bonbon, n'est-ce pas, m'a conduit jusqu'au métro. Il m'a acheté un ticket de métro. Il a fait un plan pour me diriger. J'ai rapidement fait les 19 kilomètres, corrigé cette erreur de navigation. Bon. Entre le terminus du métro et la chapelle de la fraternité, il y avait, c'était indéfini, mais il y avait peut-être quelques kilomètres et quelques temps de marche. Je marchais depuis environ 45 minutes, et je ne voyais pas arriver la configuration qui devait me déterminer à changer de direction. J'interpelle deux jeunes gens qui parlaient vraisemblablement du match de football, et tout de suite ils s'interrompent et me disent, suivez-moi, suivez-nous, nous allons vous conduire. Ils m'ont conduit, ce n'était pas prêt, ils m'ont conduit pendant 60 ou 90 minutes, oui, n'est-ce pas? Donc c'était long, loin. Et ils m'ont amené jusqu'à la chapelle de la fraternité à Moscou. Se trouve à l'intérieur d'un cimetière qui est ceinturé par un espèce de rempart de la même couleur que l'architecture de la place Rouge. Mais ils me laissent là, ces deux anges gardiens. Ils me laissent là et me disent, écoutez, navré, mais nous ne pouvons pas. Il vous faut faire le tour et trouver une porte. Bon, le chemin là, était inondée, mesurait 6 ou 7 mètres de large. À droite, le mur d'enceinte en briques rouges et à gauche, la forêt. Un chemin inondé.
Comme des douves.
J'ai marché au moins 30 minutes sur ce chemin sans trouver de porte qui s'ouvrait dans le rempart. Et je vois une jeune femme qui arrive à bicyclette. Vous imaginez volontiers que c'est ce que je pensais, que cette jeune femme allait être effrayée par de rencontrer
un vagabond.
Un vagabond, voilà, sur ce chemin. Et donc je lui montre ma carte, n'est-ce pas, la carte, le plan de la ville. Et elle s'arrête spontanément. Et elle téléphone à l'abbé Pezzuti, qui est en charge de Kaunas, le pays balte le plus au sud, et qui aussi gère la chapelle de Moscou, et qui dit « Ah, madame, nous serons à la chapelle de Moscou dimanche prochain, mais entre-temps, il n'y a personne. » Mais je n'entends pas ce qu'elle dit en russe, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Mais elle fait d'autres coups de téléphone et elle me dit « Eh bien, monsieur, vous n'avez que la possibilité de me suivre. » Et elle m'amène à un hôtel, n'est-ce pas, où elle avait téléphoné pour réserver une chambre. Elle s'est acquittée du prix de la chambre et elle est partie, n'est-ce pas ?
C'était la bonne samaritaine.
Voilà. Mais attendez, elle est revenue 30 minutes après avec un sac de provisions qu'elle a laissé à l'aubergiste et elle ne s'est pas montrée. L'aubergiste est venu me porter ce sac de provisions. J'ai pensé à l'occasion de ce concours de circonstances inhabituelles. J'ai pensé à l'évasion de Saint-Pierre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ?
Les portes s'ouvrent.
Les portes s'ouvrent, l'ange ouvre les portes. Saint-Pierre portait des fers.
Les chaînes tombent.
Les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, prends ton bâton et tes chaussures, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça.
Il sort de la prison, ma mère.
Et les portes s'ouvraient et Saint-Pierre se retrouve dans la ville alors qu'il devait être exécuté le lendemain.
Et Saint-Pierre croyait que c'était un songe.
Oui.
Et puis il s'aperçoit que c'est la réalité.
Voilà. Et bien, ce qui est survenu dans mon atterrissage à Moscou, c'était cet événement-là. Ah. C'est une situation inénarrable. Monsieur Lavey, si quelque chose de cette espèce nous arrive dans un pays où on connaît le langage, où on lit le langage, où on entend le langage, c'est exceptionnel, mais si ça se passe dans un endroit qui est absolument inaccoutumé et impénétrable, avec une réputation terrifiante, eh bien, c'est un événement très...
Ça, je comprends. Là, vous avez senti que pour les derniers kilomètres, la Sainte Vierge vous prenait par la main et vous conduisait.
Oui, mais cette... c'est magique.
Oui, je comprends bien.
Voilà,
on ne peut pas expliquer.
C'est inexplicable, irrationnel. Oui. Irrationnel.
Donc providentiel.
Providentiel. Sûrement.
Je me tourne vers Winfried Urbani. Vous ne laissez pas tomber votre pèlerin. Je pense qu'il va réintervenir. Vous-même, vous avez l'intention de le faire parler, je crois, prochainement.
Oui, ça c'est plus tard. Mais d'abord, sur Radio Courtoisie, une nouvelle émission, encore avec Jean-Pierre Diques, ou alors avec son assistant, hein, Monsieur Dominique Tassot, le dimanche 26 août à midi. Dans cette émission de dimanche. Donc, 26 août à midi, nouvelle interview sur Radio Courtoisie. Nous, avec notre petite Radio Silence, nous faisons le mardi 28 août un dîner-débat sur Paris, à Paris 5e, Pizza Roma, 27 rue des Écoles, à Paris 5e, avec le récit du pèlerin, comme vous l'avez entendu, mais cette fois-ci, vous le verrez. Ainsi qu'un diaporama de ce pèlerinage avec les meilleures photos qu'on a pu avoir à droite à gauche. Et inscription préalable obligatoire, s'il vous plaît, dès maintenant possible, chez UNEC, radio-silence@wanadoo.fr. 30 euros la place. Vous pouvez payer sur place, mais veuillez réserver, s'il vous plaît, d'avance, qu'on sache un peu combien on sera. On est déjà 13 et on n'est que le 9. Donc, en plein août, on va écouter, accueillir ce magnifique pèlerin.
Certainement. Et vous-même, vous avez quelques projets pour l'UNEC, des pèlerinages ou pas encore
Eh bien, l'abbé de Villers, il m'a dit qu'il faudrait rééditer ça. Peut-être un peu plus étoffé. Et par exemple, en amenant la statuette, une statuette de la Sainte Vierge de Fatima jusqu'à la Russie.
Oui.
Et on est en train d'échafauder un peu comment ça pourrait se passer sans interruption hivernale. Par exemple, en partant en printemps, en arrivant en automne, et peut-être avec des équipes tournantes. En allant peut-être de chapelle en chapelle, enfin, un autre concept, mais toujours en insistant, comme notre pèlerin m'a dit hier par un SMS, il a dit « Je me battrai pour le message de la Sainte Vierge jusqu'à ma dernière cartouche.
» Ah, c'est merveilleux.
Oui, mais... C'est déterminant. Et la réalisation du plan de la Sainte Vierge est très indispensable. Hein. Et nous avons pensé à des conflits de toutes sortes. N'est-ce pas? La Sainte Vierge en 1917, c'est facile d'imaginer qu'elle concevait de mettre à l'abri la société contre la révolution bolchevique. Mais il n'y a pas que cela. Toutes les guerres qui ont eu lieu depuis, et les guerres qui se sont poursuivies jusque dans le présent, n'est-ce pas, les conflits avec Daesh, par exemple, sont très redoutables. Mais, et donc, nous devons faire vraiment quelque chose contre cela.
Hein ? Et ça, il faut le faire par Notre-Dame de Fatima, voilà. Qui est... Regina Pacis, la reine de la paix, elle viendra.
Bien sûr.
C'est ça, la paix viendra d'elle et pas d'autre part.
Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Et ceci dans un monde qui l'oublie, n'est-ce pas ? Dans un monde dont la chrétienté semble être condamnée.
Mais comme vous dites, semble. Et je dois avouer qu'un témoignage comme le vôtre, ce pèlerinage de 7 mois, de 7000 kilomètres, rappelle que la Sainte Vierge existe et qu'elle veut protéger. Merci infiniment. Chers amis de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons le 6 septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux d'entre vous qui peuvent en prendre.